France Musique.
Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver pour un deuxième numéro de Versus, votre rendez-vous où l'on écoute la musique contemporaine autrement, les dimanches de juillet de 13h à 14h sur France Musique. Si vous n'étiez pas là dimanche dernier, je vous rappelle le principe de l'émission, il est tout simple. On prend un compositeur d'aujourd'hui, qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude d'écouter, et qui par là nous impressionne un peu car on n'y connaît pas grand-chose. On prend un compositeur du passé, qui lui est enterré depuis belle lurette et qu'on connaît peut-être mieux, que ce soit au disque ou en concert. L'idée est donc de faire des matchs, des duels musicaux, où l'affrontement ne sera pas tant intéressant que le regard que l'un va porter sur l'autre. Le passé et le présent vont ainsi s'éclairer mutuellement, fraternellement. C'est parti. La semaine dernière était consacrée au duo Boulez-Debussy et Pesson-Ravel. Aujourd'hui, premier round. Gustav Mahler, 1860-1911, versus Olga Neuwirth, née en 1968. Une explosion irradiante, suivie d'un tapis de couleurs sonores aussi finement tissé que puissamment maîtrisé, un matériau libre et personnel. Pas de doute, on est bien chez Olga Neuwirth. Composé en 2014 et avec quelques années de décalage pour commémorer le 100e anniversaire de la disparition de Gustav Mahler, Mazahot, Clocks Without Hands est une œuvre symbole de la production de la compositrice autrichienne. En hébreu, Mazahot signifie « histoire » ou « voyage » et Clocks Without Hands, en anglais, « horloge sans aiguille ». L'œuvre croise à la fois un hommage au grand Gustav Mahler et un rappel de la propre histoire de la compositrice, en l'occurrence celle de son grand-père, élevé sur les rives du Danube en pleine époque de la montée des nationalismes avant la Seconde Guerre mondiale. Mais plus qu'une œuvre anecdotique, d'anniversaire, Mazahot est aussi très représentatif de tout ce que partage la compositrice avec son grand aîné Gustave. Tout d'abord, ce qui arrête en premier lieu, c'est l'intensité, la puissance émotionnelle qui se dégage de manière instantanée d'une musique pourtant purement instrumentale, donc sans parole. Chez Mahler, l'orchestre est le quasi unique instrument, flamboyant, tellurique, dramatique. Écoutez le début de sa symphonie Résurrection. Comme Mazahot, c'est un opéra sans parole. Thank you. Un autre point de comparaison entre Olga Neuwirth et Gustav Mahler, ce sont leurs origines juives qui apparaissent dans leur musique, sans cliché, à l'opposé d'un quelconque flash de mémoire épisodique. Ces racines, cette musique d'une histoire personnelle, fait partie intégrante de leur langage, à tous les deux. Et pour cela, on ne peut pas passer à côté de la célébrissime marche funèbre de la première symphonie, Titan, où Mahler fait s'entremêler avec génie la mélodie de l'enfantin frère Jacques avec une grinçante et éclatante musique de Nos Klezmer. Chez Olga Neuwirth, l'héritage de la musique klezmer et de la culture yiddish prennent corps dans nombre d'œuvres, infusant parfois de l'intérieur un projet tout entier. C'est le cas de son concerto pour basson, Zefiro Aleggia nell'infinito. Inspiré par l'architecture de l'extraordinaire et poignant musée juif de Berlin, la ville où réside la compositrice, un musée en forme d'étoile de David brisée, l'œuvre nous fait entrer dans une ronde de 5 danses reprise d'un enregistrement de clarinette klezmer des années 30, enregistrement que l'on entend au cours de l'œuvre, en guise d'interlude et comme des stations d'un vrai labyrinthe de la mémoire. Ces racines populaires de la musique vont d'ailleurs en fait aboutir à deux visions artistiques bien distinctes chez les deux compositeurs. Pour Neuwirth, la musique est avant tout un acte et un geste politique, ancrant l'artiste comme acteur du monde en proie à ses affres les plus brûlants. En 2012 a lieu la création de sa réécriture de l'opéra Loulou d'Albanberg sous le titre American Loulou, plongeant ainsi l'intrigue originelle de la Vienne fin de siècle dans l'Amérique de la lutte pour les droits civiques. Deux ans plus tard, en 2014, elle en extrait une suite de concerts, Eleanor, pour chanteuse de blues, batterie, guitare électrique et grand ensemble instrumental, sur des textes de Martin Luther King et June Jordan, et dédiée à la mémoire d'Elsa Kaya, dessinatrice à Charlie Hebdo tuée dans l'attentat de 2015. Une musique qui résonne avec une force étonnante, avec l'actualité de ces dernières semaines outre-Atlantique.
One day she saw them coming into the garden where the flowers live. They found the colors beautiful and they discovered the sweet smell that the flowers held. So they stamped upon and tore apart the garden. Just because, they said, those flowers, they were asking for it.
Au contraire du feu politique qui embrase l'œuvre d'Olga Neuwirth, Gustav Mahler compose quant à lui vers une forme d'absolu avec un grand A. Musique métaphysique, tendue comme un fil entre la vie et la mort, l'œuvre de Mahler appelle les sentiments et les passions les plus extrêmes, tragiques jusqu'à l'ivresse. Thank you. Toutes ces sources d'influence, ce collage parfois glaçant, poignant, qui nous fait bouillonner l'esprit et hérisser les poils des bras, cela n'est que dans un seul but, un seul objectif, s'ouvrir au monde, embrasser le monde. On évoquait tout à l'heure les racines slaves de Mahler et Neuwirth qui surgissent dans leurs œuvres, mais parlons maintenant d'une ouverture plus large, plus fraîche aussi. Dans le premier volet de ses chants d'un compagnon errant, Mahler revisite le style populaire allemand, le Ländler, tant prisé par son grand aîné Schubert. Et dans l'étourdissant No More, musique écrite spécialement pour accompagner un film expérimental, Neuwirth juxtapose jazz et heavy metal dans un final absolument étourdissant et au parfum si intensément berlinois.
To revive myself and regain strength. Otherwise, I'd be lost.
L'incroyable fin de No More de Olga Neuwirth par l'ensemble YCY, précédé du premier chant d'un compagnon errant de Gustav Mahler par Thomas Quasthoff, les Wiener Philharmoniker, dirigé par Pierre Boulez. Vous êtes bien dans Versus sur France Musique, votre nouveau rendez-vous où l'on écoute la musique contemporaine autrement, les dimanches de juillet de 13h à 14h. On y retourne pour un deuxième round. Anton Bruckner, 1824-1896, versus Pascal Dussapin, né en 1955. Mais qu'est-ce qui diable va rapprocher les musiques de l'Autrichien Bruckner, apôtre du post-romantisme, avec celles minérales et mouvantes du français Pascal Dussapin ? C'est peut-être d'abord, un peu comme chez Mahler, ce goût de l'immense, du grand, du gigantesque. Tous deux sont des peintres de la couleur orchestrale avant toute chose, et pas de la petite formation. Bruckner et Dussapin utilisent souvent de larges effectifs, variant ainsi leur palette de sons dans des climats souvent intensément grands, dans tous les sens du terme. Écoutons les premières minutes de la 4e symphonie de Bruckner, qui se développe après un appel de corps sur un tapis de cordes frémissant, une musique qui évoque plus le générique de la firme universelle que l'intimité d'un lied de Schumann, en regard du début du long poème symphonique de Dussapin, Morning in Long Island, qui décrit une marche vécue par le compositeur sur la plage américaine dans les frimas de l'hiver. Un petit élément, un rien, qui se meut, se transforme, prend vie et devient le tout.
Thank you.
Sans faire un jeu de pistes musical complexe, on aura remarqué un point commun entre ces deux œuvres, les cuivres. Du Sapin et Bruckner adorent les cuivres. Trompettes, trombones, tuba, ils sont le socle même de leurs sons respectifs. On y retourne pour quelques minutes de plus. Uncut, du géant français, et le début de la 6e symphonie du Maître de Saint-Florian. Fortes, telluriques, les musiques de Du Sapin et de Bruckner n'en sont pas moins lyriques, emplies de mélodies poignantes, et cela intensément, jusqu'à la fièvre. Bien que Du Sapin ait écrit des opéras, 8 si l'on compte juste, pour mieux comparer avec Bruckner, qui lui n'en a jamais écrit, écoutons plutôt de la musique purement instrumentale. Jetons d'abord une oreille sur une œuvre intimiste, la première étude pour piano de Du Sapin, chef-d'œuvre de tourment, exaltant la bile mélancolique et les humeurs noires dont parlent les baroques. La première des 7 études du compositeur français est une véritable étude de lyrisme, une étude de tristesse automnale. Quant à Bruckner, il écrit avec l'adagio de sa 7e symphonie non seulement son tube personnel, mais aussi une mélodie qui ne déparerait clairement pas d'une scène d'opéra. Vous avez dit Wagner ? que ce soit l'étude de Dussapin ou l'adagio de Bruckner, on avait affaire, là encore, à des musiques pleines, tantôt épaisses, tantôt carrément granitiques. Et justement, les textures les plus pleines, ce n'est pas à l'orchestre qu'on les obtient, mais au chœur. Non pas le chœur qui bat, quoique, mais le chœur avec un H, le grand effectif choral, des voix, ensemble, comme un seul être, en plénitude. Dans le Kyrie de sa deuxième messe, Bruckner érige une fervente prière, tout en tension archaïque. C'est beau comme du Palestrina. Et en plus, on profite de nos cuivres préférés. Quant à Umbrae, dernière section du Dona Eis de Dussapin, elle est une méditation crépusculaire sur l'amour et la mort, grâce à des textes tirés à la fois de l'Office des Morts et du livret de son premier opéra, Roméo et Juliette.
Oh.
C'est sur ces notes méditatives du Dona Eis de Pascal Dussapin, par le chœur Accentus et l'ensemble Ars Nova, dirigé par Laurence Equilbet, que se referme notre versus du jour, qui faisait s'affronter Olga Neuwirth et Gustav Mahler, au regard de Pascal Dussapin et Anton Bruckner. Toutes les références des enregistrements utilisés sont bien sûr disponibles sur la page Versus, sur le site francemusique.fr. Aujourd'hui, à la prise de son et au mixage, il y avait Valérie Lavalard, une émission préparée par Pauline Boisaubert, une réalisation de Claire Lagarde. À la semaine prochaine!
À réécouter sur francemusique.fr.